tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Il est 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal international, bonjour Martin Guèze.
Bonjour Clotilde Dumay, bonjour à toutes et à tous.
Au Moyen-Orient, l'île de Karg, dans le viseur des États-Unis, le sud du Liban, dont celui d'Israël.
Les talibanais qui redoutent une nouvelle opération terrestre de grande ampleur de la part de l'armée israélienne après celle de 1982 ou 2006. Israël qui continue ses bombardements, notamment sur le personnel médical libanais. Nous appellerons Paul Ralifé à Beyrouth dans un instant. L'Iran est complètement vaincu, affirme Donald Trump. Pas du tout, répond Téhéran, qui assure qu'aucune structure pétrolière n'a été endommagée dans l'île de Karg, ce territoire stratégique clé, où au moins 15 explosions étaient entendues lors de frappes américaines, et ce alors que les stocks de munitions des États-Unis s'amenuisent. Nous serons aussi dans ce journal à Bardufoss, dans l'extrême nord de la Norvège, aux portes du cercle arctique, où se déroule un immense exercice militaire de l'OTAN. En France, où le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après ces frappes de drones dans l'est de la RDC. Et puis en Chine, Clotilde, avec ce troc d'un nouveau genre, ce n'est plus une carotte au bout du bâton, mais une côte de bœuf. Les autorités incitent les Chinois en surpoids à perdre leurs kilos contre un bon steak. Une histoire insolite que nous racontera Cléa Broadhurst en fin de journal.
Mais d'abord donc cette question, est-ce qu'Israël s'apprête à envahir le Liban ?
La presse américaine affirme que l'État hébreu prévoit une opération terrestre de grande ampleur, ce qui pourrait constituer la plus grande invasion israélienne en terre libanaise depuis 2006. L'objectif annoncé est le démantèlement du Hezbollah, et hier le chef du mouvement chiite pro-iranien, Naïm Qassem, s'est dit prêt à une confrontation longue avec Israël. Bonjour Paul Ralifé.
Bonjour Martin, bonjour tout le monde.
Vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Hier, l'armée israélienne a continué ses bombardements. Ils ont déjà fait près de 800 morts au Liban depuis le 2 mars. Et ce vendredi, 12 membres du personnel de santé libanais ont été tués dans le sud du pays.
Oui, effectivement, des médecins, des infirmiers, des ambulanciers qui ont été tués en fin de journée par une frappe israélienne qui a visé un centre de soins de santé primaire. L'attaque a eu lieu dans une localité située à moins de 10 kilomètres de la frontière libano-israélienne et à 100 kilomètres au sud de Beyrouth. Quelques heures plus tôt, deux ambulanciers affiliés aux structures de santé du Hezbollah et de son allié chiite, le mouvement Amal, du président du Parlement Nabih Berri, ont été tués. L'aviation israélienne a par ailleurs mené tôt ce matin une frappe contre la banlieue est de Beyrouth, visée pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Cette région était jusqu'ici épargnée par les bombardements.
Et Paul, la poursuite des frappes israéliennes intervient alors que les dirigeants israéliens envisagent sérieusement une opération terrestre d'envergure.
Les signaux d'une prochaine invasion se multiplient. Les avions israéliens ont détruit vendredi un important pont enjambant le fleuve Litani dans le but d'isoler la zone frontalière du reste du pays. Le chef du Hezbollah a défié vendredi soir les dirigeants israéliens, assurant que leur armée ne parviendra jamais à tenir le terrain qu'elle occupera dans le sud du Liban. Naïm Qassem a dit s'attendre à une confrontation longue dans laquelle le Hezbollah ira jusqu'au bout.
Merci beaucoup Paul Ralifé, en direct de Beyrouth sur RFI. L'armée israélienne qui multiplie aussi ses ordres d'évacuation, notamment près de Tabriz, dans le nord de l'Iran. Avertissement qui a très peu de chances d'être lu par les habitants de la région. Internet étant coupé en Iran depuis 2 semaines.
Une guerre en Iran qui pourrait finalement durer. Donald Trump donne des signaux contradictoires.
Ah oui, Clotilde, après avoir annoncé la fin imminente de cette excursion, comme il l'appelle, le président américain change de ton. Une guerre qui se terminera quand je le sentirai dans mes tripes, a dit hier Donald Trump, qui a déclaré vouloir frapper très fort l'Iran la semaine prochaine. La marine américaine va commencer très bientôt à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, a-t-il ajouté. Washington, qui dit avoir mené les raids les plus puissants de l'histoire au Moyen-Orient, sur l'île de Karg, principal hub pétrolier iranien. Une guerre qui coûte très cher aux États-Unis, une dépense colossale de 11 milliards de dollars rien que pour la première semaine. Alors que les stocks de munitions s'amenuisent, même si le Pentagone promet qu'il a de quoi voir venir, les secteurs donnent des signes d'inquiétude. Vincent Souriau.
D'après le Financial Times, il faudra des années pour reconstituer certains stocks. Lors des 2 premiers jours du conflit, le Pentagone a par exemple dépensé plus de 5 milliards de dollars en piochant, entre autres, dans ses réserves de Tomahawk, des missiles de croisière très perfectionnés et précieux pour l'armée américaine, mais qui prennent du temps à fabriquer. L'entreprise Raytheon n'en produit qu'une petite centaine par an. Sous la pression de la Maison-Blanche et en échange de promesses d'achat, cette société vient de s'engager à multiplier par 10 son rythme de production théorique. Les dépôts de munitions souffrent aussi des multiples emplois de la force décidés par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Il a déclenché des frappes en Irak, en Iran, au Nigeria, en Somalie, en Syrie, au Venezuela et au Yémen, et coulé des dizaines de bateaux dans la mer des Caraïbes, associés d'après Washington au narcotrafic. Aucune retenue, tant et si bien que le ministère de la Défense devrait demander dans les prochains jours une rallonge budgétaire au Congrès qui pourrait atteindre 50 milliards de dollars. Vincent Sourio, Washington RFI.
Et selon la presse américaine, les États-Unis vont également envoyer de nouveaux renforts au Moyen-Orient, le New York Times parlant de quelques 2500 marines et 3 navires de plus. En réponse aux frappes américaines, Téhéran a menacé de réduire en cendres les infrastructures pétrolières énergétiques liées aux États-Unis. L'Iran qui affirme par ailleurs à l'instant qu'aucune infrastructure pétrolière n'avait été endommagée sur l'île de Karg durant les bombardements américains. Parmi les derniers événements de la nuit, au Moyen-Orient, cette attaque de drones qui a visé l'ambassade américaine à Bagdad très tôt ce samedi. Une attaque qui intervient après une série de frappes ayant visé très tôt ce matin un influent groupe armé pro-iranien, faisant 2 morts dans la capitale irakienne, selon des sources de sécurité. Toutes nos informations sur le conflit sont à retrouver sur RFI.fr. Nous serons aussi en direct de Téhéran dans le journal de 7h temps universel avec Siavosh Gazi. D'une guerre à l'autre, Volodymyr Zelensky était hier à Paris, le président ukrainien qui a notamment rencontré Reza Pahlavi, fils du dernier chef d'Iran, à qui il a indiqué que l'Ukraine souhaitait un Iran libre qui ne coopérera pas avec la Russie. La guerre en Ukraine, elle se poursuit. Cette nuit, une attaque russe massive sur la région de la capitale Kiev a fait au moins 2 morts. Et pendant ce temps-là, l'OTAN organise un immense exercice militaire dans l'Arctique norvégien. L'occasion pour les dirigeants allemands, canadiens ou norvégiens de réitérer leur soutien à l'Ukraine au moment où Donald Trump vient autoriser temporairement la vente de pétrole russe jusqu'au 11 avril prochain. Exercice dans le nord de la Norvège, auquel a assisté notre envoyé spécial Ottilia Ferré.
C'est par une porte dérobée à l'arrière d'un char que les 3 dirigeants sont arrivés sur un champ enneigé ce vendredi où s'est déroulé un exercice militaire. Et le message est clair. Nous ne permettrons pas à Moscou de tester l'OTAN sur son flanc oriental et ici dans le nord. Ce sont les mots du chancelier allemand Friedrich Merz. Voici ce qu'il a ajouté lors de la conférence de presse qui s'est tenue devant les immenses montagnes arctiques et les chars de guerre.
Nous devrions faire davantage pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à cette terrible guerre au plus vite. Nous avons été quelque peu surpris d'apprendre ce matin que le gouvernement américain avait pris une décision différente.
Face à l'explosion du prix du baril, les États-Unis ont en effet autorisé jeudi dernier la vente du pétrole russe stocké sur des navires, et ce jusqu'au 11 avril. C'est ensuite le premier ministre norvégien qui a pris la parole à ce sujet, suivi du chef du gouvernement canadien.
Les 3 pays présents ici soutiennent sans relâche l'Ukraine, même si l'attention se porte ailleurs.
Ce n'est pas le moment d'enlever la pression sur la Russie, surtout parce que la Russie et l'Iran sont des grands alliés.
Une Russie qui, face à ses manœuvres de l'Alliance Atlantique en Arctique, a affiché cette semaine sa présence dans l'espace aérien international au nord de la Norvège. Ottilia Ferré, Bar du Fosse, RFI.
Et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et son homologue canadien Mark Carney qui seront rejoints la semaine prochaine par le chef de l'OTAN Mark Rutte, très loin de l'Arctique. Le ministère sud-coréen de la Défense vient d'indiquer que la Corée du Nord avait tiré au moins un projectile non identifié vers l'Est. La Corée du Nord qui a tiré environ 10 missiles balistiques selon Séoul. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
RFI 8h08 à Goma, une heure de moins ici à Paris. La France ouvre une enquête après cette attaque de drone dans l'est de la RDC.
Attaque qui a fait 3 morts, dont une humanitaire française travaillant pour l'UNICEF dans la nuit de mardi à mercredi. Le parquet national antiterroriste français a annoncé donc l'ouverture d'une enquête. Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité de la gendarmerie nationale. Elles devront éclaircir les circonstances de commission des faits et tenir informés les proches des victimes. C'est ce que nous explique Jeanne Soulzer. Elle est avocate spécialiste de la justice internationale.
Lorsqu'il y a des ressortissants français qui sont victimes à l'étranger de crimes dits internationaux, donc de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, de torture, il y a une entité qui est centralisée à Paris au tribunal judiciaire sous la houlette du parquet national antiterroriste qui est spécialisée pour enquêter sur ce type de dossier. Mais l'objectif c'est d'expliquer, de contribuer à la reconnaissance des faits et le cas échéant à la reconnaissance aussi des responsabilités, mais c'est sur un temps long, évidemment. Hein. Ce sont des enquêtes qui sont longues, avec toutes les difficultés qu'on connaît, à savoir les difficultés concernant la coopération ou l'absence de coopération, l'impossibilité parfois d'aller sur le territoire où le crime a été commis. Toute une série d'éléments qui rendent ces enquêtes préliminaires très complexes, mais qui expliquent aussi pourquoi ce sont des juridictions spécialisées, des gendarmes aussi spécialisés, le CLCH, ou des parquetiers, des procureurs spécialisés qui ont l'habitude de travailler dans ces contextes-là.
Des propos recueillis par Paulina Zidi.
En Amérique latine, les grands noms du trafic de drogue tombent les uns après les autres.
Après El Mancho, tué au Mexique il y a quelques jours, c'est l'un des narcotrafiquants les plus recherchés d'Amérique du Sud qui a cette fois-ci été arrêté en Bolivie. L'Uruguayen Sébastien Marcet était en cavale depuis plus de 3 ans. Il a été arrêté hier à Santa Cruz, dans l'est de la Bolivie. Il était recherché pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Il a immédiatement été expulsé vers les États-Unis. Explication depuis La Paz avec Nils Sabin.
Sébastien Marcet était l'un des 5 criminels les plus recherchés par la DEA, l'agence antidrogue américaine, qui offrait jusqu'à 2 millions de dollars pour sa capture. Son arrestation, hier au petit matin, a été saluée par le président bolivien Rodrigo Paz lors d'une conférence de presse.
La Bolivie est en train de montrer qu'elle peut et qu'elle veut participer à la sécurité continentale et globale. Elle le fait avec ses propres moyens, mais aussi avec la coopération d'agences de différents pays voisins et du continent que nous remercions.
Les premières photos de l'arrestation de Marcet montrent le narcotrafiquant assis, entouré d'agents de la DEA et de policiers boliviens, puis en train de monter dans l'avion qui l'a mené aux États-Unis. Pour autant, le ministre de l'Intérieur bolivien Marco Antonio Oviedo Huerta a expliqué que la DEA n'a pas participé directement à l'arrestation.
La participation de la DEA s'est limitée au transfert de Marcet aux États-Unis où il existe un mandat d'arrêt, une procédure judiciaire et une notice rouge émise par Interpol.
Sébastien Marcet est mis en cause dans 6 affaires en Bolivie et encore d'autres au Paraguay et en Uruguay. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Enfin, en Chine, Martin, les autorités ne savent plus vraiment quoi inventer pour lutter contre l'obésité.
Non, vraiment, le pays est le plus touché au monde par l'obésité. Plus de 15% des enfants chinois sont en surpoids. Alors, pour endiguer le phénomène, certaines autorités locales rivalisent d'imagination. Vous allez le voir, dernière idée en date, plutôt farfelue, troquer ses kilos en trop contre des kilos de bœuf. Claire Broderst nous raconte tout ça depuis Pékin.
Dans le sous-district de Shanbei, l'opération baptisée « Trade your fat for beef », littéralement « échanger votre graisse contre du bœuf », a déjà attiré plus de 2700 inscriptions, bien au-delà des attentes des organisateurs. Le principe est simple. Les participants, considérés comme légèrement en surpoids selon les critères fixés par la campagne, doivent d'abord se faire peser dans un centre de service du quartier. Leur progression sera ensuite suivie par des hôpitaux communautaires. À la clé, des récompenses culinaires proportionnelles aux kilos perdus. Perdre un demi-kilo permet d'obtenir un demi-kilo de bœuf, tandis que les pertes les plus importantes donnent droit à la queue de bœuf, des abats ou même de la langue. Chaque participant pourra convertir jusqu'à 10 kilos de perte de poids. Au-delà de l'aspect insolite, l'opération s'inscrit dans une stratégie plus large de promotion de la santé. Des cliniques de gestion du poids ont été ouvertes, des parcours de randonnée aménagés et des nutritionnistes doivent bientôt proposer des conseils aux habitants. Une façon pour les autorités locales d'encourager un mode de vie plus actif, avec un petit coup de pouce gastronomique à l'arrivée. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Moins de kilos, plus de tourneaux d'eau. Voilà la bien belle morale de cette histoire. Je vous laisse méditer là-dessus, Clotilde Dumay, pour la
tant
suite des RFI matin.
Tant qu'on n'est pas végétarien, ça va. Merci beaucoup, Martin Guèze. Les sports avec vous, Victor Missistrano. On commence par le football en France. 26e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir à Marseille.
L'OM est venu à bout d'Auxerre 1-0 sans briller. Première mi-temps très morne dans le jeu et dans les tribunes du stade Vélodrome, silencieuse pendant 45 minutes. Les supporters n'ont pas encore digéré la succession de désillusions des derniers mois. En seconde période, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Amine Gouiri a inscrit le seul but du match d'une frappe puissante. Victoire là-bas, mais l'entraîneur Abi Bey se montre satisfait du contenu dans cette atmosphère pesante.
Je pense que l'ambiance est liée aussi au fait qu'on a eu une première mi-temps un peu terne dans les ambitions et dans les intentions. Maintenant, on le savait, on était prévenus. J'ai beaucoup aimé le visage de mon équipe globalement sur le combat qu'ils ont eu encore une fois ce soir. On ne prend pas de but. Ce n'est pas forcément la plus belle des victoires, mais je veux saluer leur abnégation dans ce contexte-là qui n'est pas simple parce qu'ils sont habitués à un Vélodrome en fusion et on a un petit peu tâtonné. On a été un petit peu plus incisif en deuxième période. période, mais on a livré un match, on a combattu jusqu'au bout, on est resté concentré sur l'objectif qui était le nôtre. Aujourd'hui, on va dormir 3e de Ligue 1 et c'est un objectif important pour le club.
L'OM sécurise cette 3e place avec désormais 3 points d'avance sur Lyon qui joue demain devant Lens à l'occasion de reprendre provisoirement la tête au PSG en cas de succès à Lorient. Le coup d'envoi, c'est à 16h, temps universel.
Et puis toujours en football aujourd'hui, la Côte d'Ivoire accueille un choc entre les deux meilleures équipes féminines françaises.
Oui, OL Lyon, Paris Saint-Germain, la finale de la première édition de la Coupe de la Ligue féminine de football professionnel est délocalisée au Félicia d'Abidjan. Objectif, favoriser le développement du football féminin dans le pays. 25 000 spectateurs sont attendus, les billets gratuits se sont arrachés. L'attaquante lyonnaise Kadidiatou Diani s'attend à jouer dans une belle ambiance.
On arrive sur un terrain neutre, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On nous a promis quand même un stade rempli, donc je pense que le stade sera là pour encourager les deux équipes. Mais en tout cas, on aime ce genre d'initiative et on est motivé pour jouer ce match demain. Donc je pense que c'est de bon augure pour tout ce qui est ambiance au niveau du stade. Très contente de la jouer ici. En plus, moi, j'avais l'occasion déjà d'être venue ici en décembre. Donc pour moi, c'était une deuxième fois, donc j'étais encore plus content. On espère donner envie aux petites filles qui souhaitent se lancer dans le foot féminin que c'est possible, qu'il y a des joueuses à travers le monde et peut-être que ça va les aider à s'inscrire dans un club. Donc forcément, on est vraiment très contente et très touchée d'être ici.
Propos recueillis par Molamine Sissavané, coup d'envoi de cette finale à 17h30, heure d'Abidjan et en temps universel.
Il y a aussi du rugby, Victor, épilogue du tournoi des Six Nations ce samedi.
Avec en point d'orgue le choc entre la France et l'Angleterre, l'enjeu est simple pour les Français, s'imposer le plus largement possible pour s'assurer de remporter ce tournoi, comme l'an dernier, malgré la défaite de samedi dernier en Écosse. Certes, les Anglais ont été battus 3 fois en 4 rencontres, mais le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, ne veut surtout pas les sous-estimer.
Il faut toujours se méfier de l'Angleterre. On sait la difficulté de ce tournoi. On sait que d'une semaine à l'autre, le visage des équipes peut être complètement différent. C'est une équipe qui est très expérimentée, avec de très grosses individualités qui savent répondre présentes dans les grands rendez-vous. Donc même s'ils n'ont pas l'enjeu de la victoire du tournoi, le match il a quand même beaucoup d'enjeux pour eux et je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous. Donc on peut que se méfier de cette équipe-là. Après, le contexte des 120 ans, ça rajoute une saveur un peu particulière, mais au-delà des tenues, il faudra surtout qu'on ait le comportement adéquat de même.
Propos recueillis par Pauline Guillou avant France-Angleterre. En rugby, coup d'envoi 20h10, temps universel. Et puis en tennis, on connaît l'affiche de la finale du tournoi féminin à Indian Wells. La Biélorusse Arina Sabalenka et la Kazakhstanaise Elena Rybakina s'affronteront demain. Ce soir, place au demi dans le tableau masculin, Zverev Sinner, puis Alcaraz Medvedev.
Victor Missistrano pour les sports. La caricature a de moins en moins bonne presse dans le monde. Voilà ce que constatent deux organisations de défense des dessinateurs de presse. Dans leur dernier rapport, Cartooning for Peace et Cartoonist Rights alertent sur l'augmentation inquiétante des poursuites judiciaires et de la censure. Constat qui ne vaut plus seulement pour les régimes autoritaires, Olivier Rogier, mais aussi désormais pour certaines démocraties comme les États-Unis.
En janvier 2025, le Washington Post, symbole absolu de la presse indépendante, censurait la dessinatrice Anne Telnes pour une caricature critiquant la servilité envers Donald Trump du propriétaire du journal et patron d'Amazon, Jeff Bezos. Anne Telnes a démissionné, mettant en évidence la censure grandissante aux États-Unis et des dérives que l'on croyait jusqu'alors réservées au régime autoritaire, selon le dessinateur CAC, président de l'association Cartooning for Peace.
Le comportement du président Trump amène à observer des phénomènes que jusque-là on observait justement dans ces autres pays. Vous avez pression directe de l'État sur les organes de presse. Deuxièmement, utilisation des supporters de l'État pour lancer des hordes sur les réseaux en ligne. Agresser journalistes, dessinateurs de presse, les canceller, tout ça instrumentalisé par le pouvoir. La conséquence de ces deux premières choses, pression de l'État et lynchage numérique, autocensure des titres de presse.
De juin 2023 à juin 2025, Cartooning for Peace a recensé 87 cas de menaces dans son réseau, regroupant 374 dessinateurs dans le monde. Le dessin de presse est en danger jusque dans ses bastions historiques que sont par exemple l'Inde et la Turquie.
Force est de constater que en Inde, c'est de moins en moins possible. Il y a toujours des dessinateurs de presse qui s'expriment, mais dès qu'ils sont en critique frontale avec le pouvoir, ils ont des ennuis, en général des ennuis judiciaires. parfois des incarcérations abusives. Et en Turquie, alors là pour le coup, en Turquie, ça n'est plus possible du tout. Le dernier magazine satirique Lehman a été obligé de fermer, ou en raison d'une instrumentalisation d'un dessin qu'ils avaient fait, où des gens ont voulu faire croire qu'ils avaient dessiné le prophète, ce qui n'était pas le cas. Les locaux ont été envahis d'abord par des manifestants, puis par la police, mais qui en réalité, sous prétexte de protéger la rédaction, les a arrêtés et a fait fermer le journal. Et c'était le dernier journal satirique.
La tendance mondiale est donc mauvaise, comparable à celle de la presse en général, mais le dessinateur CAC garde cependant des raisons d'espérer.
Dans les pays où ça se durcit, ce qu'on remarque, c'est que l'affection du public pour le dessin de presse grandit et que ce public se rajeunit. Pourquoi ? Parce que le dessin de presse est un instrument de résistance. Par exemple, on a fait une opération fin 2025, il y a quelques semaines, au Mexique. Ce qu'on remarque, c'est que dans les salles de conférences qui sont bondées, et on a face à un public qui en général est moins de 40 ans. Pourquoi ? Parce que dans ces pays-là, se battre pour ses droits, c'est une réalité quotidienne. Et le dessin de presse est un instrument de combat.
Restent les pays en guerre où, selon CAC, le dessin de presse est implicitement ou explicitement sommé de choisir son camp.
Menace sur l'information avec Olivier Roger. Bonjour Karam Hassan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio sur RFI. Vous êtes notre grand invité ce matin. Vous qui rêviez d'être journaliste d'ailleurs, je pense que ça vous fait plaisir d'être à un micro. On va parler de votre livre « Un rêve plus loin » qui vient de paraître chez Albin Michel, dans lequel vous racontez votre parcours, donc de votre enfance au Soudan, au Darfour, avant même la guerre civile, les violences qui durent maintenant depuis une vingtaine d'années. Vous allez être obligé de fuir votre pays d'origine, on va y revenir, jusqu'à la France, où vous avez d'abord passé des mois sans abri, à la rue, jusqu'à finalement devenir aujourd'hui employé d'une grande entreprise comme L'Oréal. Difficile de résumer donc en un peu moins de 10 minutes tout ce parcours qui est à la fois très dur et en même temps qui donne beaucoup d'espoir, je trouve. Peut-être d'abord, pour commencer tout simplement, comment va votre famille, celle qui était au Soudan, que vous avez dû quitter lorsque vous aviez 26 ans, je crois, et que vous n'avez pas vu pendant 9 ans, comment vont-ils aujourd'hui? Est-ce que vous les voyez régulièrement?
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette belle invitation. Et je me dis, en fait, c'est génial de commencer le week-end en tant qu'invité chez vous. Ça m'en fait vraiment tellement
c'est
plaisir.
C'est génial de vous avoir également pour nous.
Très bien. Alors, ma famille va très très bien aujourd'hui. C'est vrai que je les ai vus après 9 ans en 2024. Et une deuxième fois aussi, il y a quelque temps, ça va très bien. Et j'ai trop
ils
hâte.
Vivent en Égypte maintenant, toujours.
C'est ça, à cause de la guerre qui a commencé en 2024. Ils étaient obligés de fuir et du coup, ils habitent en tant que réfugiés aujourd'hui ou demandeurs d'asile en Égypte.
Et donc, ils espèrent y rester, probablement.
Tout à fait.
On va revenir sur votre enfance, donc plutôt heureuse au Darfour, avant les violences. Voilà. Vous racontez cette enfance assez simple, finalement. Et vous allez quitter le Soudan pour faire des études à l'étranger, en Inde. C'est lorsque vous allez vouloir rentrer chez vous, quelques années plus tard, que les choses vont se compliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Ouais, tout à fait. En fait, j'ai eu une vie assez simple en tant qu'enfant, mais c'est vrai que je suis parti en Inde pour faire mes études. Et quand je suis rentré au Soudan, et c'est là où j'étais arrêté, parce que le gouvernement m'a accusé que je fais partie d'un groupe opposant. Ils m'ont posé des questions, pourquoi vous êtes parti, etc. Et après, ils m'ont mis dans un prison. Et j'étais obligé de donner des informations, et c'est pour ça que j'étais libéré sur des gens qui habitent dans mon quartier, etc. Et ça durait quelques temps, et après, c'était dur pour moi de vivre dans cette menace. Et j'ai décidé de fuir, obligé de quitter mon pays.
Mmh. Sur les conseils de votre père, qui c'est vous ça. Dit dans un premier temps d'aller en Égypte.
C'est ça. Mon père c'est comme mon conseiller, c'est la personne le plus proche et la personne avec qui j'ai discuté beaucoup. Et je lui ai dit, il m'a dit, vraiment là, t'as pas d'avenir et tu dois partir. Et c'est vrai que même moi, j'avais peur et j'ai décidé de partir. Et c'est lui qui m'a donné 3 000 $ que j'ai payé, etc., plus tard.
Pour rejoindre l'Égypte et là-bas, effectivement, vous rencontrez une connaissance de votre père, qui va vous dire que voilà, la vie finalement en Égypte ne sera pas meilleure qu'au Soudan, qui vous conseille de prendre contact avec des passeurs pour rejoindre l'Europe. Vous savez pas trop à quoi vous attendre, en fait.
Pas du tout. Quand il m'a dit ça, pour moi, c'était un rêve et j'étais hyper content parce qu'il m'a expliqué la réalité qu'en Égypte c'est dur et maintenant il faut partir, aller plus loin, etc. Donc j'ai dit ok. Et le jour où je dois prendre le bateau, c'est là où j'ai découvert.
Là, vous tombez devant une barque.
C'est un petit bateau et c'est un choc. C'est le premier choc que j'ai eu. Et après, le choc a duré quand même quelques jours.
Et vous racontez effectivement cette traversée de la Méditerranée. Pendant plusieurs pages dans votre livre, ça prend une place assez importante. Ça a été l'un des moments les plus difficiles dans tout ce périple.
Pour moi, parce que 9 jours, imaginez, 9 jours sans prendre la douche, sans... vivre normalement et aussi vivre dans la peur et l'angoisse, c'est quand même pour moi, c'était dur, à la fois individuel et collectif, et la violence aussi qu'on a eue, et aussi l'incertitude de peut-être ne pas y arriver. Et pour moi, c'était quand même dur, les 9 jours que j'ai eu, en fait, dans le bateau.
Des jours de navigation au milieu des dégueulis, des pleurs et des murmures. Finalement, vous arrivez, malgré tout, à rejoindre les côtes italiennes. Ensuite, vous allez arriver en France, à Paris, et puis donc jusqu'à Calais, dans le nord de la France.
C'est ça.
Dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, hein, en fait, où des milliers d'exilés sont regroupés. Vous parlez au début d'un océan de tentes et de misère, un bidonville.
Ouais.
Ce sont vos mots que lorsque vous arrivez, vous essayez de rejoindre le Royaume-Uni, en réalité. Donc vous voulez traverser la Manche. Vous faites plusieurs essais, vous n'y parvenez pas. Et donc, in fine, vous décidez de rester en France. Au début, c'est un mariage un peu forcé entre vous et la France.
Ouais, tout à fait. Alors en fait, pour moi, la France n'était pas du tout la destination parce que je ne parle pas français, parce que je ne connaissais pas la culture et je ne connaissais personne en France. Et quand je suis arrivé, je dormais dans la rue. Et quand je suis allé à Calais, c'était un choc. Du coup, je suis resté 3 mois et l'objectif, c'était d'aller en Angleterre. J'essayais. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, j'ai dit heureusement parce que, en fait, j'ai demandé l'asile en France pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, j'étais très touché de voir cette belle solidarité des associations qui étaient tout le temps à nos côtés, nous donner le moral, à manger. Et pour moi, c'était quand même très, très fort et ça m'a énormément touché. La deuxième raison, c'est le décès de cet ami qui est décédé en traversant. C'est ça. Qui
mort écrasé par un camion alors qu'il tentait de rejoindre le Royaume-Uni.
Donc, c'était un choc pour moi et un chagrin. Et la troisième raison, c'est l'amour de la langue française.
Ah mais c'est ça, c'est assez marrant parce qu'au début, vous ne parlez pas du tout français.
Pas du tout.
Comment vous êtes tombé autant amoureux de cette langue? Enfin, vous avez des mots, langue dont je désirais tant maîtriser les subtilités, j'en aime tout, la grâce, la douceur par rapport à l'arabe et sa complexité.
Ben en fait, vraiment, cette langue m'a... Je sais pas, l'amour que j'ai pour cette belle langue qui m'a aussi poussé à l'apprendre. Je dormais peu, je lisais, je savais pas, lire correctement, mais quand même je lisais des mots, etc. Et j'écoutais beaucoup la radio. Et c'est ça qui m'a donné aussi, qui m'a aidé à progresser, etc. Donc je travaillais énormément d'arrache-pied pour avoir un niveau en français, parce que je me disais, je vais avoir une vie normale et vivre normalement et discuter, avoir des amis, et voilà.
Vous avez aussi été aidé, hein, vous le racontez, par une ancienne enseignante qui s'appelle Françoise, qui, vous la qualifiez de votre deuxième mère. Vous en arrivez finalement aujourd'hui, à avoir un poste au sein d'une grande boîte à L'Oréal, une grande boîte française. Est-ce que, malgré tout, il vous arrive encore de regarder derrière vous, quand vous voyez ce qui se passe, la guerre civile au Soudan, vos origines au Darfour, la prise d'El Fasher qui a été un massacre pour des milliers de civils. Est-ce que vous suivez malgré tout la situation de près? Qu'est-ce que ça vous fait?